Je suis femme d'un pasteur de cette même église et je suis maman de 3 enfants. Je vous en parlerai tout à l'heure, c'est pour ça que je les mets déjà là, comme ça vous savez. Ce qui veut dire que le pouvoir, je le vis à différents niveaux, et dans mon ministère et dans ma vie de famille, mais le service aussi, je le vis à différents niveaux, et dans mon ministère et dans ma vie de famille. Je me rappelle mon premier poste de pasteur il y a bientôt 20 ans, une dame très engagée dans la paroisse où j'arrivais, quand on commençait à discuter de me présenter à la communauté protestante qui était toute petite mais plus largement à nos frères catholiques et autres, cette dame, mais comme ça, m'a dit « On ne vous croira jamais ». On n'en a jamais reparlé après, de cette phrase sortie comme ça, de sa part. Et pendant longtemps, je me suis demandé si c'est parce que j'étais une femme, si c'est parce que j'étais jeune, je n'avais pas 30 ans. J'ai baptisé ses premiers petits-enfants, j'étais à l'église catholique pour le mariage de son dernier fils. Tout à coup, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui lui manquait ?» Pour les autres, en fait, pour elle et pour sa famille, visiblement, je faisais autorité et j'étais bien le pasteur. Mais quand je suis arrivée, pour elle, il semblait me manquer quelque chose. On n'en a jamais reparlé. Hein. Donc je reste avec cette question, mais en tout cas pour moi, je me dis toujours, j'y repense souvent, et je me dis c'était un bon début du ministère. Cette dame m'a dit, attention, tu n'as pas tous les pouvoirs, ou attention, tu n'es pas toute puissante. Et je trouve que, en tout cas pour mon ministère de pasteur, maintenant, en tout cas pour le moment, je ne vous dirai pas, mais maintenant, je me dis c'est bien, c'était bien. Alors pourquoi rendre service? Ma première réponse, ce serait je rends service car j'ai le pouvoir de le faire. Et c'est là où vous pouvez montrer la suite. C'est pas des grands titres, je vous explique, c'est pas des grands titres, c'est juste les phrases que je trouve importantes que vous entendiez, soit je les répète, soit vous les lisez, pas forcément à noter, mais voilà. Pour moi, c'est important de me dire, à la question pourquoi je rends service, c'est d'abord, je rends le service parce que j'ai le pouvoir de le faire. Avoir le pouvoir, et ça, je veux commencer par ça, avoir le pouvoir, ce n'est pas prendre le pouvoir. La différence est ténue. Avoir le pouvoir, ce n'est pas prendre le pouvoir. Pour moi, avoir le pouvoir, n'est avoir du pouvoir, du coup, je dirais plutôt, n'est pas forcément négatif. Cela me permet de faire des choses. J'ai le pouvoir de prendre ma voiture et d'être venu ici ce soir. J'ai le pouvoir de rêver. J'ai le pouvoir de décider. J'ai le pouvoir de donner mon avis. J'ai le pouvoir de dire si je ne suis pas d'accord. J'ai le pouvoir d'imaginer. Mais après avoir écrit ça, je me suis dit, ceci est très contextuel. Nous sommes en France et aujourd'hui, je peux dire ça. Je ne suis pas sûre que ma grand-mère ait pu dire ça. Et je sais très bien que des femmes dans d'autres pays, et même des hommes, ne peuvent pas dire ça. Donc nous serions ailleurs ou à une autre époque, ce serait différent. Mais comme nous sommes ici et maintenant, je ne spéculerai pas pour ailleurs et à un autre moment. Avoir du pouvoir, pour moi en tout cas, n'est pas forcément négatif. Par contre, le tract, et ça c'est la suite, quand j'ai vu ce tract-là, je me suis dit, il y a quand même, dans ce tract d'annonce ou d'invitation, il y a quand même l'idée d'une opposition. Un point levé en haut, une main tendue de l'autre côté. Ce point fermé peut difficilement devenir la main tendue. Il y a bien un problème entre pouvoir et service. Alors, pour moi en tout cas, et ça sera sûrement un des points sur lesquels vous discuterez, pour moi, le pouvoir devient négatif quand je veux prendre le pouvoir. Quand je ne laisse plus la place à l'autre, quand je ne permet pas à l'autre d'avoir lui aussi du pouvoir, c'est là que le problème arrive. Et c'est vrai dans ma vie, mais c'est vrai dans mon église, mais ça peut être vrai en association et en société. Pour moi, la différence est bien là. Le problème, pour moi, n'est pas dans le pouvoir, mais plutôt dans prendre le pouvoir ou avoir du pouvoir. Quelques exemples dans ma vie personnelle. J'ai une voiture et je vais faire mes courses en voiture. Mon voisin n'a pas de voiture. Je peux sereinement lui proposer d'aller faire les courses avec moi. Je peux le prévenir une semaine avant et lui dire la semaine prochaine je ferai les courses. Je peux aussi lui dire tel jour la semaine prochaine à telle heure je ferai les courses. Il me répond oui ou non. Je peux différemment lui dire tu n'as pas besoin de faire les courses, moi j'irai, quel jour t'arrangerai, et on peut s'entendre tous les deux sur l'heure et le jour des courses. Encore autre chose, je peux lui proposer la semaine prochaine d'aller faire les courses et tout à coup changer d'avis et lui dire je n'irai pas faire les courses, ou disons je ferai autre chose avant de faire les courses, ou quelque chose comme ça. Vous sentez le pouvoir que j'ai? Bien sûr j'ai du pouvoir, bien sûr mon voisin reconnaît mon pouvoir en acceptant mon service. Mon pouvoir n'est pas négatif s'il peut en profiter. Mon pouvoir devient négatif si je le contrains ou même si je l'empêche. S'il a espéré pendant une semaine aller faire les courses avec moi et que tout à coup, le matin, je change d'avis, alors bien sûr, il était d'accord avec ce pouvoir d'aller faire mon pouvoir d'aller faire les courses. Sauf que tout à coup, à un moment donné, ce pouvoir peut l'empêcher, peut le contraindre. Un autre exemple. Il y a quelques années, j'habitais à côté de ma filleule et sa maman. Souvent, je la gardais. Je pouvais sereinement lui dire « Quand tu as besoin, je te la garde », puisqu'elle avait l'âge à peu près de ma fille. C'était pas très contraignant avec 3 enfants, 3 ou 4, il y a un moment donné où on fait plus la différence. Je pouvais aussi lui dire « Tel jour, je veux bien la garder ». Mais pareil, comme avec mon voisin, je pouvais très tranquillement lui dire « Je peux la garder quand tu veux », et puis quand elle en avait besoin, lui dire « Non, 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 je ne peux pas ». Pareil, j'avais ce pouvoir de garder ma filleule, j'avais aussi le pouvoir de dire non. Et c'est là où mon pouvoir devient ce point fermé, contraignant, impossible, qui permet pas la liberté à l'autre. Dans le service rendu, il y a le choix laissé à celui qui est bénéficiaire du service rendu. Il reconnaît que j'ai du pouvoir, le pouvoir de lui rendre service. Mais quand tout à coup mon choix devient imposé ou mon service devient imposé, je prends le pouvoir. Et je peux prendre le pouvoir en rendant service. J'en arrive au pouvoir négatif. Alors pour moi, une question, c'est est-ce que je reste au service de l'autre ou est-ce que je profite de ce service pour prendre pouvoir sur l'autre? Oui, prendre pouvoir sur l'autre. Un autre exemple, moins contraignant, de ma vie de famille. Si je fais les courses et les repas toute seule, je décide de tout. Mon dernier fils n'aime pas les courgettes, je ne vous raconte pas. En cette saison, le pauvre. Courgettes à presque tous les repas. Non, en tout cas, voilà. Si je fais tout, je décide de tout. Si je délègue les courses ou le repas, ça m'est arrivé avec mon dernier fils, il n'y a pas longtemps. Déléguer la pizza, la préparation de la pizza. Eh bien, ah, elle était délicieuse, cette pizza. Mais après sa cuisine, il n'y avait plus un morceau de fromage dans la maison. Ah, mais c'était très bon. Mais bon, il fallait retourner faire les courses. Donc, si je partage mon service, je ne maîtrise plus. Je n'ai pas tout pouvoir. Donc ça, c'était pour vous montrer que pour moi, cette question de pouvoir et service se vit vraiment partout. Je peux avoir du pouvoir et en profiter pour rendre service. Je peux avoir du pouvoir et en profiter pour régner sur ma famille, sur mes voisins, sur mes amis, et vu ma position sur mon église. Parce que bien sûr, en église, c'est la même chose. J'ai un groupe de catéchumènes. J'ai donc du pouvoir, puisque une fois par mois, pendant plus de 2 heures, ils sont avec moi. Mais je ne suis pas obligée de prendre le pouvoir et devenir un dictateur. Même chose quand je prêche. Je peux décider seule du texte biblique sur lequel portera ma prédication. C'est permis dans notre église. Je peux aussi choisir de suivre les textes de l'église catholique, ce qui est suggéré par mon église, pour être en lien avec beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et le dimanche matin, se dire, nous lisons ce texte, mais nous savons que partout autour de nous, d'autres le lisent. Les exemples seraient nombreux dans l'église, où on peut prendre du pouvoir, devenir, comme je disais tout à l'heure, régner sur mon église. Moi, j'ai des collègues, alors peut-être qu'ils m'arrêteraient avant, mais je trouve qu'on est quand même, voilà, on a une position où on peut prendre beaucoup de place. Alors on peut utiliser notre pouvoir. Et on est toujours confronté au choix d'utiliser le pouvoir pour dominer les autres ou pour mettre ce pouvoir au service des autres. Et donc ces quelques exemples, pour moi, veulent juste montrer que c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. Si je parlais de la pizza de mon fils, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment un exemple qui montre que dans tous les domaines de notre vie, on peut utiliser le pouvoir que chacun d'entre nous a pour dominer ou pour mettre ce pouvoir au service des autres. Là où ça devient difficile, c'est que l'opposition entre service et domination ou pouvoir n'est pas si simple. Parce qu'on peut choisir le service pour arriver à la domination, ou on peut choisir aussi la domination pour arriver au service de tous. Donc on est toujours sur une crête. Je lisais que l'instrumentalisation du pouvoir, en abuser pour de bonnes ou de mauvaises causes, ou l'utilisation du pouvoir comme un don pour soi et pour les autres n'est pas seulement une décision éthique qui définit des comportements observables. Là aussi, vous pouvez mettre la suite. Donc, ce n'est pas simplement une décision éthique. C'est aussi l'expression d'une attitude existentielle. Est-ce que je sauve mon âme par le pouvoir que j'ai, donc, puisque j'ai commencé à dire on a tous du pouvoir, ou est-ce que je reçois le salut? Sauver mon âme, c'est être sauvé. Et avec ce salut, ou à cause de ce salut, dans la confiance, je peux faire don de ce que j'ai reçu et aussi de ce pouvoir. Du coup, mettre mon pouvoir au service. Parce que je continue à penser que le point fermé est important et on peut... Et des fois, on en a besoin. Quand je conduis, quand plein d'autres choses, plein d'autres fois, je suis contente d'avoir du pouvoir. Mais ce pouvoir peut être au service. Et si je parle d'attitude existentielle, c'est que parce que je suis sauvée, je peux mettre... Je n'ai pas besoin de me battre. Mon point fermé ne sert pas à me battre. Mon point fermé sert à agir, à m'engager, à faire ce que je dois faire. Et ces temps-ci, dans notre pays et dans notre monde, on a besoin de gens qui serrent les poings et qui agissent. Donc pour moi, vous entendez bien, pouvoir n'est pas forcément négatif, mais bien, c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut être négative et qui peut faire beaucoup de mal. Mais le pouvoir en soi n'est pas négatif. L'équipe de préparation m'a demandé de parler de l'institution, puisque c'est sûrement pour ça qu'une pasteur a été invitée. Ce statut de ministre du culte était important. Alors je vais vous parler un peu de l'institution que je connais, qui est mon église protestante unie de France. Comme j'imagine que peu d'entre vous la connaissent, un petit résumé de ce qu'est l'Église protestante unie de France. Donc, unie d'abord parce que réformée luthérienne. Ça, c'est l'histoire et c'est le 16e siècle, alors j'en parlerai pas. Par contre, ce qui est important pour nous protestants, c'est que nous ne reconnaissons que la seule autorité de la Bible. Chaque individu a le droit, a le pouvoir de décider ce qu'il croit. Un exemple qui va peut-être vous parler, la virginité de Marie. À partir des mêmes textes bibliques, des protestants disent oui, je crois, la virginité de la Vierge. Comme ça dit comme ça, c'est bête, mais... Et d'autres disent non, je n'y crois pas. Cela ne change rien à notre foi et à notre fraternité dans notre Église protestante. Nous sommes différents pour notre alimentation, nous sommes différents pour nos loisirs, nous sommes différents pour beaucoup de choses. Et nous pensons que pour ce qui n'est pas le cœur de notre foi, on peut vivre avec ces différences-là. Donc la place de Marie et sa vie avec les textes bibliques, avec les mêmes textes bibliques, nos avis divergent. Un point où nous sommes tous d'accord est que le seul chef de l'Église, c'est le Christ. Ça aussi, nous le lisons dans le Nouveau Testament. Donc puisque c'est lui le chef de l'Église, nous n'avons pas une tête décisionnelle dans mon Église. Pour des raisons pratiques, nous avons, maintenant c'est une femme, c'est une présidente du Conseil National. Elle est pasteur à plein temps, mais c'est plutôt un poste représentatif, en tout cas pas décisionnel. Les décisions sont prises en Conseil National, qui est composé à part égale de pasteurs et de non-pasteurs, donc de salariés et de bénévoles. Et les décisions sont surtout prises par le Synode National, qui se réunit une fois par an. Donc les décisions sont collégiales, prises à part égale par des ministres du culte et des non-ministres. Et même, pour éviter, parce que même comme ça, avec des décisions collégiales, on pourrait penser que quatre amis se présentent et votent et peuvent prendre le pouvoir. Même pour ça, donc pour éviter ça, les élections ne se font pas à partir de candidatures, mais nous avons un beau système de cooptation. Une équipe réfléchit qui pourrait être à ce poste-là et à partir de là, voilà. Donc je vous raconte pas, c'est très long et c'est très compliqué, mais voilà. Personne ne peut dire, moi je serais bien là et moi j'ai envie d'être là et allons-y. Et ensuite, une fois cela fait, en tout cas en théorie, personne n'est laissé seul dans son poste. Il y a toujours une équipe qui accompagne. C'est la même chose pour la nomination des pasteurs. Si au niveau national, c'est facile, hein, parce qu'on est moins de 400 paroisses, donc imaginez-vous que c'est facile. Une équipe au niveau national, quand un pasteur a été pendant 6 ans maintenant, c'est la règle, pendant 6 ans dans un lieu, on réfléchit s'il reste là ou s'il a envie de changer. S'il a envie de changer, on lui demande où est-ce qu'il aimerait changer par rapport à ses compétences, par rapport à sa vie de famille aussi. On réfléchit où aller. Tant qu'on avait des enfants petits, je faisais beaucoup de kilomètres. Maintenant, tant que je n'avais pas d'enfants, je faisais beaucoup de kilomètres, pardon. Mon grand m'a suivi un temps dans son cosy. C'était très rigolo. Il y avait toujours une dame qui se battait pour avoir le fils de la pasteur sur les genoux pendant que je prêchais ou que je faisais une étude biblique. Mais bon, après, voilà, quand il y en a eu deux, c'était plus difficile, puis lui, il restait plus sage sur les genoux. Donc, voilà, donc par rapport à la vie de famille, par rapport à nos compétences aussi, on essaie de proposer au pasteur un lieu quand c'est le moment de changer ou quand il a envie de changer. Et puis, le pasteur et la paroisse se rencontrent et l'un et l'autre voient s'ils ont envie de travailler ensemble, au moins un temps. Mais bien sûr, nous sommes humains, donc vu comme ça, c'est bien. Et c'est long, ça marche, mais c'est souvent un peu long. Mais il y a quand même des garde-fous. Notre texte biblique, seule autorité, nous dit si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Je me suis dit, on peut imaginer qu'être le plus grand signifie prendre le pouvoir et être serviteur, rendre service. Ici, le pouvoir passe par le service. Alors d'abord, je me suis dit, c'est vieux cette envie de prise de pouvoir. Les disciples qui disent, moi je veux être... Je vais être bien placée. Donc c'est vieux cette histoire, cette envie de diriger, de décider, ou en tout cas d'être bien placée. Ce n'est pas nouveau. Et les textes bibliques nous rappellent le danger de l'autoritarisme. Ce que je trouve beau dans ce texte-là, c'est que notre logique humaine est complètement retournée. Être le plus grand, ce n'est pas être celui qui est servi, mais c'est bien celui qui sert. S'abaisser, disent d'autres textes bibliques, s'abaisser dans notre logique humaine. Cela m'a rappelé mon enseignant de théologie pratique, qui à un moment donné, vers la fin, je pense, en 4e année, où là on devenait nos débuts d'études en théologie sont ceux qui ont une envie de ministère et beaucoup d'autres, et vers la 4e année ça, les rangs se resserrent, je veux dire, en tout cas en théologie pratique on parle plus du ministère. Et donc ce monsieur qui était près de la retraite passait son temps à nous de poser la question, et pourquoi vous voulez devenir pasteur? Et il avait différents types, et le dirigeant ou celui qui voulait prendre le pouvoir, c'était un de ces types. Et donc il passait son temps à nous dire, réfléchissez à pourquoi vous voulez voulez être ministre, parce que ministre, c'est quand même serviteur. Soyez honnête d'abord avec vous-même, nous disait-il. C'est une première étape. Parce que bien sûr, dans mon église, le pasteur, c'est celui qui a du temps. Je suis à plein temps pour mon église, par rapport aux bénévoles qui donnent du temps, en plus de leur vie active, ou en tout cas, en plus de tout ce qu'ils font. Donc la tentation arrive vite de tout faire, comme à la maison. Si je fais les courses et à manger, ben, dans l'église, c'est pareil. Puisque moi, je suis, en plus, j'habite sur place. Donc je suis sur place, j'ai du temps, je peux tout faire pour ne pas embêter personne, pour aller plus vite aussi. Donc je rends service. Mais du coup, je peux aussi, puisque je suis toute seule, donner une direction, la direction que je veux. J'allais dire une direction, non pas une direction. Je peux aussi donner la direction que je veux. Quelle tentation de prendre le pouvoir si on est tout seul à décider. Surtout que du coup, je vous parlais de mon passage à la faculté de théologie. Pour nous protestants, les études des pasteurs sont très importantes. Pour être ministre de mon église, il faut au moins 5 ans de théologie. Donc maintenant, ça s'appelle un master en théologie. Donc le pasteur a une autorité théologique. Il est celui qui connaît le grec, qui connaît l'hébreu, même si on a la chance d'en avoir qui connaissent dans notre église, qui sont pris de cette passion du grec et de l'hébreu. Enfin, nous, voilà, il y a longtemps qu'elle est venue, cette passion. Donc il est celui qui a l'autorité théologique, parce que c'est celui qui a passé du temps. C'est celui qui a passé du temps à travailler les textes, à travailler la théologie. Donc puisqu'on a cette autorité reconnue, il faut être très vigilant pour que cette autorité ne devienne pas du pouvoir. Le pouvoir, nous ne l'avons pas, en théorie du moins. Tout est fait pour que nous ne l'ayons pas. Mais donc, tout à l'heure, j'ai parlé du temps que j'ai. Maintenant, je parle de l'autorité, ou en tout cas, du savoir qui me donne un peu d'autorité en théologie. Et puis, je me dis, mais ça, c'est peut-être vous qui m'arrêterez, qui me critiquerez. Je me dis qu'aussi, parfois, la confusion avec les prêtres catholiques joue aussi. Il me semble qu'ils ont plus de pouvoir que moi au niveau spirituel, avec les sacrements. Les protestants, nous avons deux sacrements, le baptême et la scène, l'Eucharistie donc, et les non-pasteurs, les non-ministres peuvent aussi célébrer ces deux sacrements-là. Donc je n'ai pas une autorité en plus par rapport à ça. Le pasteur est un laïc comme les autres, dans la théologie de mon église. Les études et la reconnaissance de ministère que j'ai reçu me permettent de vivre ce ministère. Mais tout ce que je fais, un non-pasteur peut le faire. Donc je n'ai aucun pouvoir spécifique. Par contre, je reviens à mes études, à cause de mes études, une autorité m'est reconnue. Aussi, parfois, certains disent à cause de nos personnalités. J'ai des collègues qui sont beaucoup plus autoritaires que d'autres. Et puis, c'est aussi toujours plus simple dans un groupe d'êtres humains, plus réconfortant, plus reposant. Quand quelqu'un veut prendre des responsabilités, on le regarde faire, c'est pratique. Soit parce qu'il est plus apte, ici dans le cas de l'église, j'ai une formation, soit par son caractère aussi. Il y a des gens qui font tout très vite. Donc, pourquoi les autres ont envie de ne se fatiguer pour rien. Mais nous savons bien que quand un seul fait tout, ce que je disais tout à l'heure, le danger arrive. Soit qu'il ait envie de prendre le pouvoir, soit que juste en le regardant faire, on lui laisse prendre le pouvoir. Ou en tout cas, la peur qu'il prenne le pouvoir. J'y reviendrai tout à l'heure. Je veux parler un peu du pouvoir religieux. Le pouvoir religieux dans notre société, comme toute institution, s'est affaibli. Et beaucoup le déplorent. Je ne fais pas partie de ceux qui pleurent, de cet affaiblissement du pouvoir religieux. Si les églises ont longtemps dicté la morale et la manière de vivre de tous, et du coup tenu le peuple dans le droit chemin, ce n'est plus le cas. Le libre arbitre, la liberté de jugement, comme ont dit les réformateurs au XVIe siècle, comme nous disons encore les protestants, une catéchumène qui confirmait à Pentecôte dans sa confession de foi a écrit libre arbitre. Je dis, mais tu sais ce que ça veut dire? Mais bien sûr, oui, c'est vrai. Nos catéchumènes à 15 ans parlent encore de libre arbitre. Donc le libre arbitre est laissé à chaque individu. Cela signifie beaucoup de liberté. Mais pour nous protestants, cela signifie aussi beaucoup de responsabilité. Décider, choisir ce que je crois, ce que je veux, ce que je vis, demande une réflexion avant d'agir parce que je sais bien que mes actes ont des conséquences. Donc réflexion, engagement, responsabilité. Les protestants y tiennent beaucoup parce que nous connaissons, en France nous avons souffert de ce pouvoir religieux qui voulait que tout soit pareil. Et puis aussi parce que juste pour être deux exemples du début du protestantisme, dont on n'est pas très fiers, mais qui ont aussi sûrement servi à construire notre protestantisme. Notre cher Luther a encouragé le massacre des paysans à Münster, et Calvin, lui à Genève, a juste fait brûler vif son opposant Servet. Donc c'était le tout début du protestantisme, hein, ces deux exemples. Je reste en Europe, mais on aurait plein d'autres exemples où les protestants n'ont pas fait de jolies choses. Donc bien sûr, on a souffert, on a fait souffrir aussi. Du coup, et on l'a pas inventé, on parle du sacerdoce universel, disant tous les chrétiens sont prêtres. Ça, je l'ai pas noté, mais c'est dans 1 Pierre 2. Nous sommes tous prêtres. 1 Pierre 2, 4, 5. Mais si je dis ça, est-ce que je dis que chacun peut avoir son église et faire ce qu'il veut? Non, non, non. Pas de risque d'anarchie. Nous avons des ministères, et ça c'est chez Paul qu'on peut les lire. Des ministères différents, des fonctions différentes, dont le ministère pastoral. Mais chacun est responsable de ce qu'il croit, de ce qu'il fait, pour justement empêcher ce pouvoir, du coup pouvoir religieux. Alors c'est vrai, le protestantisme refuse le pouvoir sacré, un pouvoir divin. Je suis pasteur parce que j'ai fait des études, j'ai soutenu mon master en théologie, j'ai rencontré la commission des ministères de mon église, fait là aussi à part égale de pasteur et de non-pasteur, et cette commission des ministères m'a reconnu pasteur, ou disons m'a proposé pendant 2 ans une paroisse, et au bout de ces 2 ans-là, j'ai été reconnue dans mon ministère. Mais pendant 4 ans, je suis partie à Madagascar, pays d'origine de mon mari, où là j'ai enseigné. Donc je n'étais pas plus pasteur là-bas, puisque j'enseignais. Pour mon église, j'étais pasteur en congé, comme quand j'ai pris quelques années pour élever mes enfants avant. Par contre, le problème pour moi a été, dans cette église-là, nous étions à Madagascar, chez les luthériens, dans l'église luthérienne, cette église ne reconnaît pas le ministère féminin. Et je voyais des femmes étudiantes en théologie, puisqu'on était dans une faculté de théologie luthérienne, souffrir de cette non-reconnaissance. Donc c'est un autre pouvoir, celui-là, je n'en parlerai pas. Mais je voulais vous dire que mon ministère peut s'arrêter un temps et recommencer. Je suis pasteur quand j'occupe ce ministère-là. Pas de pouvoir qui m'a été donné. Ma vocation, je ne la vis pas comme un pouvoir donné une fois pour toutes. Chaque 6 ans, mon église me demande de faire le point sur mon ministère et on réfléchit ensemble si je suis bien à ma place et si ce que je fais correspond. Et avant, si de toute manière je faisais quelque chose qui ne correspondait pas, on m'arrêterait largement avant. Mais pour revenir au pouvoir, pour moi la question n'est pas la réalité du pouvoir, mais bien l'usage qui en est fait. Je pense que je l'ai écrit celui-là. Donc ce n'est pas, je ne conteste pas le pouvoir. Pour moi vraiment c'est quelque chose de, je vais dire de positif, mais c'est l'usage qu'on en fait qui peut être négatif et faire beaucoup de mal. Alors vous imaginez bien que vu la fonction que j'occupe, il y a des attentes. Les gens qui sont en face de moi ou les gens qui m'écoutent ont des attentes et ont surtout une image de cette fonction que j'occupe. Donc je repense toujours à mon enseignant de théologie pratique qui nous disait que déjà quand on était clair avec nous-mêmes sur cette question de prendre le pouvoir ou pourquoi est-ce qu'on était ministre du culte, si c'était pour prendre le pouvoir ou pas, c'était déjà plus facile d'y avoir réfléchi avant et d'y réfléchir tout au long de notre ministère. Mais reste que il y a 100 ans, peut-être même 60, le pasteur était une autorité et avait un pouvoir religieux fort. Encore, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens, je me souviens d'une famille, un remariage, et la dame dit, mais madame le pasteur, vous croyez que je peux encore avoir un enfant avec ce nouveau mari, enfin ce mari, parce qu'elle en avait déjà, je ne sais plus, 3 ou 4, et qu'elle commençait à plus être toute jeune, et tout à coup elle voulait la réponse de l'autorité pastorale. À elle, je vous avouerai que j'ai osé répondre. D'habitude, je ne réponds pas, mais là, j'ai osé répondre. Mais c'était pas le pasteur qui répondait, c'était la maman. Mais bon, l'image du pasteur comme autorité et même comme pouvoir religieux, ayant réponse à tout, reste dans beaucoup de têtes, je trouve. Notre théologie est très claire, tous prêtres, tous au même niveau. Et dans la pratique, je ne fais pas plus qu'une laïque que je suis dans mon église. Sauf que reste dans les mémoires ou dans la pratique de beaucoup que je suis plus, ce qui pour moi est plutôt négatif. Alors j'en arrive à pouvoir et responsabilité. La responsabilité qui m'est laissée, parce que, je redis, j'ai des études, j'ai du temps, ou disons, mon église a choisi de me laisser vivre à plein temps ce ministère, ce qui n'est pas le cas dans toutes les églises protestantes. J'ai des collègues plutôt protestants évangéliques qui doivent travailler et être ministres du culte le week-end, parce que leur église n'a pas les finances pour les payer à plein temps. Donc, cette responsabilité qui m'est confiée peut devenir un pouvoir donné. Et parfois, la peur que le pasteur prenne le pouvoir se ressent. Bien sûr, on m'a donné des responsabilités, je les ai prises, et parfois on m'en donne certaines. certaines que je ne voudrais pas prendre. Dans l'émission qui préparait cette... Non, pas qui préparait, qui annonçait cette rencontre à Radio Présence, le journaliste nous parlait d'une enquête disant que seulement 2% des sondés avaient du respect pour les personnes en responsabilité. Je ne suis pas allée vérifier. Je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Je ne sais pas si ceux qui ont entendu, vous avez entendu la même chose que moi. Mais c'était bien ça, c'était bien 2%. Je suis restée... Enfin voilà, je me suis dit, zut, je lui poserais bien vraiment 2%. Vous entendez, 2% des sondés ont du respect pour les personnes en responsabilité. C'était sur la question, alors c'était plutôt en politique, donc vous en parlerez plus tard. Mais tout va bien, non, parce que pour moi, c'est personne en responsabilité. Je me sens personne en responsabilité. Donc je suis bien d'accord que la... Oui, c'est pour ça, je vous dis, c'est plutôt politique. Mais reste que c'est personne en responsabilité. On sent bien cette peur de prise de pouvoir. Je trouve que c'est très français. Pour avoir vécu ailleurs, je me suis posé la question et j'aimerais bien que vous ayez des idées, enfin, ou une réponse. Je me demande vraiment pourquoi est-ce que nous sommes autant terrorisés de toute personne qui prend des responsabilités avec cette crainte que parce qu'il y a prise de responsabilité, il y a prise de pouvoir. Mais ce qui m'amuse beaucoup dans l'Église, c'est que parfois, on me donne des responsabilités que je n'ai pas envie du tout de prendre. Toujours ma première paroisse qui attendait la pasteur pour choisir la couleur de la peinture des murs de la salle de réunion. Eh bien, on va peut-être prier ou enfin, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Mais autre chose, ici, à Toulouse, il y a 3 jours, dans le placard de l'école biblique, donc école biblique, c'est de 7 à 11 ans, dans le placard de l'école biblique, il y a beaucoup de choses utiles, de la peinture non sèche, mais il y a aussi une pile de cahiers d'enfants qui ont confirmé depuis 5 ou 10 ans, donc il y a longtemps qu'ils ont eu même 11 ans, ces enfants-là, des jolis dessins, mais qui sont un peu vieux. Donc j'ai dit aux monitrices de l'école biblique, on pourrait pas faire un tri? Oh, on n'a jamais osé. Comment pourrions-nous prendre la responsabilité de jeter ce que quelqu'un a fait? Le pasteur, avec toute son autorité, le pasteur que je suis, a dit, eh bien on va trier. On en a jeté des choses. Étonnant, personne ne voulait prendre depuis plus de 10 ans, parce que je dis 10 ans, mais je dois être gentille. Personne ne voulait prendre depuis plus de 10 ans la responsabilité de jeter. Il a fallu que mon autorité naturelle, peut-être, rien à voir avec le ministère pastoral, vous entendez? Il a fallu que mon autorité, ça plutôt naturelle, du coup, dise, on peut jeter. Si les enfants ne sont pas venus chercher leur cahier ou leur dessin, il y a plus de 10 ans, il y a même 5 ans, on peut jeter. À la maison, je sais qu'au bout d'un moment, je jette. C'est beau les dessins, mais on en garde 2, mais on n'en garde pas 50. Donc parfois, il m'est donné un pouvoir dont je me passerai bien. En tout cas, celui-là, je me passerai bien. Un autre exemple, celui-là que je trouve, de mon point de vue, plus grave. Notre église, donc à Toulouse, mon église protestante unie, c'est le Grand Toulouse. On vient jusqu'ici et peut-être encore plus loin. Et donc, nous avons un lieu de culte sur la place du Salin. Belle église, bien. Sauf que quand on habite Castanet ou plus loin, c'est loin quand même. Et puis même, quand on habite ou quand on travaille le dimanche matin, en tout cas, les familles nous disent revenir en centre-ville alors qu'on y passe notre semaine, revenir avec nos enfants en centre-ville, c'est pas simple. Bien, donc, l'idée c'est de faire d'autres cultes, offices, enfin on appelle ça culte, mais c'est des offices. Le conseil presbytéral, donc conseil presbytéral, vous comprenez conseil presbytéral? Le conseil qui gère, voilà, le conseil qui gère notre église. Allez-y les pasteurs, décidez un autre moment, un autre lieu, mais c'est pas à nous de décider. Pourquoi est-ce que je ferais un culte toute seule? Le culte c'est vraiment quelque chose de communautaire. Donc là aussi, sereinement, tu es en responsabilité, décide. Avec mes collègues, on a bien été d'accord pour dire non. Nos cultes sont communautaires, ce n'est pas à nous, ministres, de décider quand et où on va faire quelque chose. Ça se vit en communauté, on aura besoin que vous soyez là. Réfléchissons ensemble pour voir le lieu, le moment où on a envie de vivre quelque chose. Alors les responsabilités qui me sont données impliquent, oui, avoir du pouvoir. Pour moi, la question est bien de donner confiance. Confiance à ceux avec qui je vis dans l'Église, afin de pouvoir prendre des responsabilités sans prendre le pouvoir. Afin, en tout cas, que ceux avec qui je vis dans l'Église comprennent que de me laisser des responsabilités, c'est ne pas me laisser tout le pouvoir. La confiance, ça prend du temps. La confiance, quand on est pasteur, c'est plus facile, je pense, que quand on travaille dans une association ou dans d'autres lieux. Je reconnais la chance que j'ai de pouvoir sereinement parler de ça, parce que je sais bien, pour l'avoir vécu dans d'autres lieux, qu'au bout d'un moment, sereinement, il n'y a plus cette crainte de prise de pouvoir. Donc, Donc tout est question de confiance pour moi. Comment habiter la fonction que j'occupe, l'image que les autres projettent sur cette fonction, comme dirigeant, comme décideur, ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. À moi de ne pas coller complètement à cette image pour que tous puissent voir que me laisser de la responsabilité, ce n'est pas craindre que je prenne le pouvoir. Alors je dis ça prend du temps. En position de responsabilité, et ça c'est sûrement vrai pour tout le monde, comment est-ce que j'habite cette image de responsabilité? Comment je vis? Comment j'occupe cette place que me laissent les autres? Parce qu'être en position de responsabilité, c'est vrai pour moi, c'est clair, mais mes exemples de vie de famille montrent bien qu'on est tous à un moment donné en position de responsabilité, en église, mais en association et dans la société. Pour moi, vraiment, on est tous en position de responsabilité. Alors, je ne sais pas si ça suffit, je me suis posé la question. Est-ce que je mets des questions à la fin ou pas? Je finis un peu comme ça, me disant l'intérêt pour vous est de discuter. Mais si vous voulez, j'ai quand même eu quelques questions. Donc je l'ai dit, puis vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Je ne les ai pas écrites, comme ça c'est pas figé, mais c'est en me relisant, je me suis dit, zut, peut-être que pour que les groupes se sentent motivés à discuter, c'est bien. Parce que voilà, c'est bien de parler, mais il faut des fois des choses pour discuter. Mais vraiment, sentez-vous libre par rapport à ça. Ça reste, c'est une question pour moi. Pourquoi est-ce qu'en France, quand on accepte une responsabilité, ça signifie, la plupart du temps, vouloir le pouvoir? Je trouve que c'est très français. Et ça nécessite pas même un quart d'heure de réflexion, mais voilà. Si un moment ou l'autre, vous pouvez m'aider à réfléchir à ça, je trouve qu'accepter une responsabilité, de suite, et les 2% là de... du sondage montre bien ça. De suite, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'elle se propose pour ça? C'est louche. Vous avez bien compris que pour moi, le pouvoir n'est pas négatif. Mais peut-être que pour vous, ça l'est. Et ça peut être une matière à réflexion aussi. Est-ce qu'avoir du pouvoir ou avoir le pouvoir, c'est toujours négatif? Et puis, je suis allée très vite sur la distinction prendre le pouvoir et avoir le pouvoir. Ça mérite aussi peut-être un peu plus de réflexion que là, mais je voulais tout dire, alors je me suis dépêchée avec ça. Et enfin, je suis aussi allée vite en interprétant service et responsabilité. Et peut-être que vous, sous service, vous pensiez à autre chose. Et là aussi, ça peut être matière à discussion. Qu'est-ce que le service? Moi, pour moi, service, mais vu ma position, pour moi, service, j'ai de suite interprété responsabilité, mais peut-être pas pour vous. Peut-être que pour vous, service signifie autre chose, et ça peut aussi être matière à réflexion. Mais il y a peut-être plein d'autres choses. Donc, j'ai essayé de tenir dans les... Bon, merci. Donc voilà, je m'arrête et je vous laisse réfléchir à tout ça.